Vous écoutez On lit pour vous.
Des médias culturels indépendants en difficulté. Un texte de Philippe Renoux paru le 18 novembre 2024 dans Le Devoir. Les propriétaires et les rédacteurs en chef de trois médias culturels numériques, le canal auditif, Sors-tu et As-tu vu, sonnent l'alarme. Accablés par la chute considérable de leurs revenus publicitaires, ils s'adressent au ministère de la Culture et des Communications du Québec dans l'espoir d'obtenir une aide financière d'urgence, sans quoi les activités de leurs médias, fidèles alliés de la scène musicale québécoise et particulièrement de sa relève, devront bientôt être réduites dès le début de la nouvelle année, sinon mises à l'arrêt. Fondés il y a plus de 10 ans, ces trois médias indépendants génèrent annuellement plus de 6 millions de pages vues et attirent 2 millions de visiteurs grâce aux quelques 2000 articles qu'ils publient, affirme-t-il dans une lettre datée du 7 novembre 2024, transmise à Mathieu Lacombe, ministre des Communications et de la Culture, et dont Le Devoir a obtenu copie. Or, en raison de la baisse drastique des revenus publicitaires, de la compétition féroce et inégale que nous livrent toujours les GAFAM et de l'absence de soutien gouvernemental, nos activités sont menacées, déplorent les rédacteurs en chef en précisant que le manque à gagner en revenus publicitaires cette année par rapport à 2023 s'élève à 120 000 $, ce qui représente près du tiers de notre chiffre d'affaires. À la fois allié et concurrent, le canal auditif Sors-tu et As-tu vu ont chacun trouvé leur lectorat en diffusant sur le web les dernières actualités culturelles et en proposant des critiques d'albums et de concerts. En 2014, les trois médias se sont regroupés au sein de la coopérative Culture Cible avec les médias Baron Mag et Bible Urbaine, dans le but de mutualiser certaines ressources internes et dépenses fixes et d'attirer ensemble plus d'annonceurs sur leur plateforme web. Chaque entreprise suit sa propre ligne éditoriale. Culture Cible a connu plusieurs années de croissance jusqu'à la pandémie. On est alors tombé presque à sec. « Mon site s'appelle Sors-tu alors qu'on ne sortait plus ?» indique en entrevue le journaliste, chroniqueur et président de Culture Cible, Marc-André Mongrain. Durant les années 2022 et 2023, on a connu une sorte de renaissance puisque la plupart de nos clients publicitaires sont des entités du milieu culturel, festivals, maisons de disques, producteurs de spectacles, etc., qui avaient reçu beaucoup de financement grâce au programme d'aide à la relance. Et ça a rejailli sur nous. Aujourd'hui, l'aide à la relance a disparu, les festivals en arrachent, les salles de spectacle en arrachent, et nous aussi. Le temps presse, souligne Louis-Philippe Labrèche, rédacteur en chef du canal auditif. S'il ne se passe rien d'ici janvier 2025, je serai obligé de mettre le canal de côté parce que je n'arrive plus. Dans l'immédiat, il demande une bouée de sauvetage financière, 80 000 $ par média pour l'année à venir, mais de manière plus pérenne, les trois rédacteurs en chef réitèrent qu'il est urgent de créer un programme de subvention pour soutenir les médias culturels numériques, lit-on dans la missive envoyée au ministère. Louis-Philippe Labrèche insiste sur l'importance des médias culturels indépendants comme des agents de découvrabilité de la musique québécoise, un des chevaux de bataille du milieu dont les artisans peinent à se faire entendre sur les services d'écoute musicale comme Spotify. Le problème, souligne Marc-André Mongrain, c'est que son média, comme celui de ses collègues, ne bénéficie d'aucune aide ni du Fonds des médias du Canada parce qu'on n'est pas considéré comme des médias d'information, ni des aides provenant du milieu culturel puisqu'on ne crée pas de l'art ni des aides relatives au virage vers le numérique puisqu'on est déjà dans le numérique. Labrèche et Mongrain sont les uniques salariés à temps plein de leurs entreprises. En grappillant quelques sommes de programmes gouvernementaux, aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques, programme d'aide à l'embauche du Centre emploi jeunesse, on s'arrange pour épongir une partie de nos déficits ou payer, en partie ou en totalité, le salaire de stagiaires qui reste de 3 à 6 mois, après quoi ils doivent partir puisqu'on n'est plus capable de les payer. Le canal auditif et Sortu compte sur des dizaines de journalistes et critiques qui rédigent des textes bénévolement ou contre des cachets symboliques. Ève Paris, directrice générale de l'ADISC, qui milite activement pour une meilleure découvrabilité du travail des musiciens québécois, souligne que la place de la culture dans les médias généralistes est de moins en moins grande, donc le rôle des médias numériques indépendants est encore plus important. Ces médias ont un rôle à jouer dans la découvrabilité par les recommandations d'albums et de spectacles qu'ils font, la mise en contexte du travail des musiciens et le lien de confiance qui s'établit entre les journalistes et leurs lecteurs. Dans un courriel envoyé au Devoir, le cabinet du ministre Lacombe accuse réception de la lettre du regroupement de médias numériques culturels Culture Cible. Nous sommes en contact avec les représentants de ces médias pour voir s'il est possible de les accompagner dans un contexte d'environnement numérique en pleine transformation. C'était « Des médias culturels indépendants en difficulté », un texte de Philippe Renaud, paru le 18 novembre 2024 dans Le Devoir.
Colette, l'ancêtre de Google, un texte de Sylvia Galipeau, paru le 1er décembre 2024 dans La Presse. Comment se débarrasser d'une tasse de café? Comment gérer une relation compliquée avec sa belle-mère? Comment, surtout, garder son mari à la maison? Une certaine Colette a signé au siècle dernier un courrier du cœur pendant plus de 50 ans dans un grand quotidien que vous connaissez bien, La Presse. Entretien avec sa biographe, Maud Savaria, qui publie ces jours-ci, écrit donc à Colette pour enfin sortir cette pionnière de l'ombre en 3 temps. Édouardina, de son vrai nom. Elle s'appelait Édouardina Le Sage, Colette de son pseudo. Elle a signé un courrier du cœur de 1903 à 1956, baptisé « Entre nous, mesdames », puis le courrier de Colette dès 1906. Tenez-vous bien, elle va recevoir près de 100 lettres par jour à son apogée, auxquelles elle va répondre religieusement à la main pendant plus de 50 ans, quotidiennement, puis les samedis seulement. Véritable pilier, sorte de ministère sacré, comme diront d'elle ses collègues pour les festivités entourant son jubilaire, on a même dit qu'elle était la journaliste la plus lue au Canada français. Mais pourquoi diable n'en a-t-on jamais entendu parler? Écris donc à Colette, c'est pourtant ce qu'on disait aux jeunes gens, aux femmes majoritairement, même si des hommes lui écrivaient aussi de temps en temps, quand ils se questionnaient sur des sujets pratico-pratiques, quand avertir son propriétaire avant de quitter un logement, plus complexe, comment se faire inviter par un jeune homme, carrément éthique, peut-on rester célibataire? Elle était très connue à son époque, indique Maud Savaria, qui a fait un mémoire de maîtrise en histoire sur cette grande dame, remaniée pour le publier chez Marchand de Feuilles. Mais comme elle était célibataire, sans famille directe, et surtout sans fond d'archives, il a été plus difficile pour les historiens de la retracer. L'archiviste de profession a quant à elle épluché 311 numéros de La Presse et quelques 16 000 lettres, dont elle reproduit plusieurs extraits aux fins de sa recherche. Ancêtre de Google. Elle avait un peu la fonction de Google. C'est ainsi que Maud Savaria résume la tâche de cette journaliste à la longévité inégalée. Elle répondait à la fois à des questions pratiques, on l'a dit, l'adresse de tel curé, mais aussi à des questions plus existentielles sur la vie en société, en famille ou en couple. Bref, sur la vie tout court. C'est d'ailleurs ce qui fait d'elle un sujet particulièrement d'intérêt. Elle était célibataire, vivait seule avec ses sœurs célibataires, et elle donnait des conseils maritaux aux jeunes femmes et aux jeunes hommes mariés. Elle n'avait pas de mari ni de gens influents dans son entourage, donc elle a fait son chemin par elle-même, grâce au contenu de ses réponses et au contenu des confidences. Si les sujets du courrier s'inscrivent, certes, dans ce qu'on appelle les fameux 4F, typiques des pages féminines, Family, Food, Fashion and Furnishing, soit la famille, la nourriture, la mode et l'ameublement, Maud Savaria y voit des questions qui dépassent largement le féminin traditionnel. C'est sociologiquement vraiment important de voir ce que le vrai monde pensait. Et cela s'inscrit, évidemment, dans le cadre d'une époque. Aux questions entourant la toilette appropriée pour un mariage, l'hiver, ou l'art de tenir maison, Colette répond avec une bienveillance toute chrétienne, qui témoigne de l'idéologie catholique conservatrice dominante. Et d'un deux poids, deux mesures évident. Ainsi, aux femmes, Colette prône un soin extrême de la modestie, suggère qu'elle garde aussi la simplicité et qu'elle ne contracte jamais de dette pour la toilette. Celles-ci sont en outre responsables de l'unité familiale, tandis que les hommes, à qui Colette concède certains écarts de conduite, il ne faut pas écrire à une lectrice au mari infidèle, demander à l'imparfaite nature humaine une perfection qui n'est pas de ce monde, doivent nourrir la dite famille. La lecture des extraits publiés fournit plusieurs perles, notamment celle-ci. « S'il est permis pour une femme d'être un brin coquette, écrit Colette, c'est seulement aux fins de garder son mari. » Éclipsée par une certaine Jeannette. On l'aura deviné si, outre l'absence de fonds d'archives, cette Colette n'est pas passée à l'histoire. C'est notamment parce qu'elle a été éclipsée par une autre courriériste du cœur, évidemment plus progressiste, Jeannette Bertrand. « Je dirais que oui, » confirme l'historienne. Mais elle a été précurseuse. Au moment où Jeannette Bertrand commence son courrier, c'est la fin de sa carrière à elle. Quand Jeannette Bertrand arrive, Colette a 80 ans. C'est normal qu'on la compare en tant que femme plus conservatrice. Elle est née au 19e siècle, elle a grandi avec les idées du début du 20e, fait savoir l'historienne. D'ailleurs, même pour une femme dite conservatrice, cette Colette, qui n'écrit le mot « féminisme » que deux fois, dans l'échantillon étudié, avance quelques idées plutôt progressistes, notamment au sujet du célibat laïque, ainsi qu'en matière de violence faite aux femmes. Dans les cas de violence conjugale, paraphrase Maud Savaria, « ça suffit, dit-elle à ses correspondantes, vous pouvez partir, la violence, c'est trop. » Elle cite même des ressources. Il ne faut pas oublier que Colette écrit aussi à une époque où l'Église fait loi et la censure fait rage, et qu'elle ne pouvait sans doute pas publier librement ses opinions profondes. Elle transmettait de l'information en répondant aux attentes sociales, résume l'autrice, sauf que par sa vie, elle déjouait les normes. D'ailleurs, le saviez-vous? Quand elle commence en 1903, elle est la seule et unique femme qui travaille dans les bureaux de la presse, en direct d'une certaine bibliothèque, où elle reçoit un temps et certains jours ses lectrices. Pour moi, conclut Maud Savaria, Colette et son courrier sont un ancêtre du réseau social. C'était Colette, l'ancêtre de Google, un texte de Sylvia Galipo, paru le 1er décembre 2024 dans la presse. Mmh.
La maison des aînés et alternative ouvre enfin à Rouyn-Noranda. Un texte de Ricardo Junior Emmanuel, paru le 22 novembre 2024 dans Le Citoyen. La ville de Rouyn-Noranda a maintenant sa maison des aînés et alternative, la 35e du Québec. Près de 40 millions de dollars ont été investis pour construire ce bâtiment. Lors de l'inauguration, le 22 novembre, plusieurs personnalités politiques ont souligné l'importance de ce projet qui constitue un nouveau pas vers un vieillissement digne et autonome. Elle adhère dans une volonté claire de repenser l'hébergement des aînés. Avec 48 unités, visant à offrir un milieu de vie de qualité pour les aînés, dont 12 pour des personnes aînées en perte d'autonomie et 36 autres pour les adultes ayant des besoins particuliers présentant une déficience physique ou intellectuelle. La Maison des aînés et alternatives, MDAMA, ne se contente pas d'être un lieu de vie. Elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée. Les installations sont constituées de 4 maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées. Il s'agit donc d'un ajout de 96 nouvelles places en hébergement pour la population de la région. Je suis très fier de voir un engagement phare de notre gouvernement continuer à se concrétiser. Nous pouvons nous réjouir de savoir que plusieurs personnes de la région pourront bénéficier de ce modèle d'hébergement visionnaire et novateur que nous avons voulu à échelle humaine, inclusif et agréable. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à sa concrétisation, a déclaré Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé. La concrétisation et l'inauguration de la Maison des aînés et alternative de Rouyn-Noranda marquent une étape importante pour la communauté. Nous venons offrir aux résidents et résidentes un environnement chaleureux et moderne où l'organisation des soins et des services est axée sur leurs besoins. En tant qu'ancien membre du conseil d'administration de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue nord du Québec, je me réjouis particulièrement pour les adultes présentant une déficience physique ou intellectuelle, ainsi que pour leurs familles, a souligné Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Une intégration graduelle. Au cours des prochains mois, on va accueillir 24 résidents dans leur nouveau domicile, a précisé Mme Evelyne Grenier-Ouimet, présidente directrice générale adjointe PDGA du CI3SAT. Bien que le lancement de la Maison des aînés et alternative à Rouyn-Noranda représente un pas décisif vers une meilleure qualité de vie pour les aînés de la région, il ne faut pas perdre de vue les défis persistants liés à la pénurie de personnel dans le secteur des soins. Selon Mme Grenier-Ouimet, l'ajout de ces nouvelles ressources dans le réseau ne viendra pas fragiliser les services offerts dans le CHSLD. La prochaine étape consistera à accueillir la première moitié des résidents qui intégreront la Maison des aînés et alternatives MDAMA. Au fur et à mesure de l'année 2025, et dès que le personnel sera en nombre suffisant, l'établissement pourra recevoir 24 autres résidents. Actuellement, 24 places sont ouvertes, explique Mme Evelyne Grenier-Ouimet. C'était la Maison des aînés et alternatives ouvre enfin à Rouyn-Noranda, un texte de Ricardo Junior Emmanuel, paru le 22 novembre 2024 dans Le Citoyen.
Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre 2024. Un texte du Dr Régent Thomas, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Chaque année, nous soulignons la Journée mondiale de lutte contre le sida en espérant que les nouvelles seront meilleures d'une année sur l'autre et que des progrès considérables auront été accomplis afin de conduire à l'éradication du virus de l'immunodéficience humaine, VIH. Dans les 4 dernières décennies, les acquis ont certes été vertigineux par rapport à d'autres maladies, mais il reste encore des obstacles à surmonter pour mettre fin à l'épidémie du VIH. Et sans surprise, ces obstacles sont directement liés aux inéquités sociales, en particulier en matière de santé et de droits humains. Qu'en est-il aujourd'hui? Au niveau mondial, les données de 2022 et de 2023 de l'ONU-SIDA demeurent stables. On estime que 39,9 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, que 1,3 million de personnes sont infectées par le VIH chaque année et que 630 000 personnes par an décèdent de causes liées au sida. En revanche, au Québec, le portrait est différent. Avec 422 nouveaux cas déclarés en 2022, on note une augmentation de 78 % par rapport à l'année précédente. Plusieurs facteurs y contribuent, parmi lesquels la réouverture des frontières et l'augmentation du nombre de dépistages par rapport aux années de pandémie de COVID-19. Cependant, une constante demeure. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, HARSA, H-A-R-S-A-H, représentent l'un des groupes les plus touchés par le VIH avec près de 40 % des nouveaux diagnostics, dont 61 % des cas ont été découverts lors d'un premier dépistage. Qu'est-ce que ces données nous amènent à penser? On peut répéter ad vitam aeternam que l'absence d'éducation sexuelle dans les écoles et le manque de sensibilisation auprès de la population en général sont des raisons évidentes, mais on doit également reconnaître qu'il existe un relâchement dans la communauté LGBTQ2+, par rapport à l'urgence et à la nécessité de combattre le VIH. En témoigne notamment la diminution constante de l'intérêt autour de la Journée mondiale de lutte contre le sida, y compris au niveau international. Le VIH n'est plus à la mode et les jeunes générations ne se sentent pas concernées, d'autant moins que le discours ambiant laisse entendre que le VIH n'est plus un problème grave parce qu'il existe des médicaments. Effectivement, les traitements ralentissent la maladie qui est devenue une maladie chronique. Au niveau préventif, la prophylaxie pré-exposition, PrEP, évite de contracter le virus. Encore faut-il connaître son existence, y avoir accès et l'utiliser. La PrEP existe depuis plus de 10 ans déjà et elle diminue jusqu'à 97 % le risque de contracter le virus. Il s'agit donc d'une stratégie de prévention particulièrement efficace et constitue une avancée majeure en termes préventifs. Mais son efficacité à réduire significativement la transmission du VIH est limitée par sa sous-utilisation. La sous-utilisation de la PrEP revient à ne pas utiliser un vaccin s'il était disponible. C'est là un échec de la santé publique. Pourtant, en l'absence de vaccin, la PrEP est un outil important pour contrôler l'épidémie d'infection au VIH, mais plusieurs facteurs limitent son accès. Les tabous associés à la sexualité empêchent plusieurs personnes d'en parler à leur médecin et vice-versa. L'absence de cours sur les ITSS dans le cursus médical ajoute à la méconnaissance et au malaise qui en découle. Plusieurs résidents en stage à l'actuel voient un cas de syphilis pour la première fois. Finalement, des enjeux financiers peuvent restreindre l'accès à la PrEP. Refus de remboursement de la part des compagnies d'assurance ou manque de moyens financiers pour assumer les coûts de la PrEP. À cet égard, l'actuel a participé à une recherche démontrant que la gratuité de la PrEP réduit considérablement les barrières à son utilisation. À ce titre, la Grande-Bretagne fait figure de proue en rendant gratuite la PrEP depuis 2020, avec des résultats spectaculaires dans la diminution de la transmission du VIH. La PrEP est également gratuite dans 6 provinces canadiennes pour tous les résidents ou pour certaines populations à risque. Qu'attendons-nous pour en faire autant? Les traitements relatifs au VIH et à sa prévention doivent être gratuits comme pour les autres ITSS. La diminution du nombre de nouvelles infections est essentielle pour infléchir l'épidémie de façon significative. Il s'agit donc d'un enjeu majeur de santé publique dont on doit tenir compte. Dans le contexte actuel de lutte contre le VIH qui présente de multiples défis, il est d'autant plus important d'appréhender le problème de façon intégrée. Bien que les données actuelles puissent être préoccupantes, l'arrivée de nouvelles thérapies de longue durée, tant thérapeutiques que préventives, offre des avenues prometteuses pour la gestion de la maladie et sa prévention. Aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH et les personnes sous PrEP consultent environ 4 fois par année, ce qui permet de faire leur bilan sanguin et d'effectuer le dépistage des ITSS. Dans la mesure où la chlamydia et la gonorrhée ont augmenté respectivement de 11 % et de 21 % en une année, il est essentiel que la santé publique, de concert avec les médecins de première ligne et les organismes communautaires, déploie d'urgence les mesures appropriées pour implanter ces nouvelles thérapies de façon efficiente et sécuritaire dans une perspective de santé publique et de santé globale des personnes. Suivons le chemin des droits est le slogan de la Journée mondiale de lutte contre le sida cette année. Droit à l'équité sociale, à l'accès aux soins et à la non-discrimination, autant de facteurs qui exigent un engagement sur le long terme qui s'appuie sur une approche multidisciplinaire. En ce sens, on ne peut qu'inciter la santé publique à jouer un rôle de leader dans cette démarche, afin de garantir que le VIH et les ITSS deviennent une priorité et pour veiller à ce que les batailles gagnées dans les dernières années, notamment concernant la réduction des méfaits, ne disparaissent pas en raison de réductions budgétaires. C'est cet engagement qui permettra de respecter le chemin des droits. À l'inverse, l'inaction conduira inévitablement à accroître les iniquités sociales et à fragiliser davantage des populations déjà hautement vulnérables. C'était Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre 2024. Un texte du Dr Régent Thomas, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue.